Bénisse son Église et nous bénisse tous.
Hein?
Est-ce que vous connaissez ces émissions de caméras cachées? Vous avez déjà vu? C'est rigolo, hein? On aime piéger des personnes pour s'amuser. Alors, ceux qui sont piégés, parfois, trouvent ça un peu moins drôle, mais ça peut être quand même rigolo. Parfois, c'est des célébrités ou des amis. Alors, on peut, par exemple, se déguiser en personne âgée. On tombe par terre, on feint d'avoir eu une crise cardiaque. Là, je vous donne pas d'idée, là. Faut pas faire ça. Et puis, quand les gens s'approchent pour nous porter secours, ben, on se lève. Pas vrai. Pas vrai. Ou on met une fausse araignée sur l'épaule d'une fille. Essayez ça. Hein? Et celle qui a la phobie des araignées se met à sauter comme ça, sursauter. Et ça peut être assez rigolo pour celui qui joue le tour, mais pas pour la fille qui a peur. Dernièrement, un groupe de jeunes a téléphoné dans un commissariat à Paris, il y a quelques mois de ça. Et pourquoi ils ont fait ça? Pour annoncer qu'il y avait eu un attentat. Waouh! C'est chaud, hein? Annoncer qu'il y avait eu un attentat. Plusieurs policiers sont intervenus. On a bouclé le quartier, c'était à ce moment-là près de Châtelet. Et on a appris quelques heures après que c'était pas vrai. C'était une blague, une mauvaise blague. Alors pour ce qu'ils ont fait, les jeunes ont risqué entre 3 et 4 mois de prison et 70 000 euros d'amende. Voilà. J'ai vu sur Internet la vidéo de deux Japonais qui avait imaginé le scénario parfait. Il s'était déguisé en gangster, imaginez. Et l'un des deux avait un pistolet. Il tire sur son ami. Les deux sont dans un quartier très passant. Alors il y a un homme qui voit la scène, il sort une vraie arme et il abat le faux tueur. Tragique. C'était pas vrai. C'est une blague. Ce matin, on va prendre un texte dans l'Épître de Jean. Et dans le passage de cet après-midi plutôt, parce que j'ai l'habitude d'être le matin, on met en garde contre du faux. Contre du faux qui est dangereux. Contre du faux qui a des conséquences tragiques. Et je vais relire le texte parce que c'est pas mauvais de relire ce texte-là tellement il est fort. Et le monde passe et sa convoitise aussi. C'est dans 1 Jean chapitre 2 verset 17 à 28. Le monde passe, sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Verset 20. Pour nous, pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce que aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. Verset 25. Et la promesse qu'il vous a faite, c'est la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Quelle heure est-il? Quelqu'un peut me dire l'heure, là ? Quelle heure est-il ? Ah, 14h57. C'est une question qu'on se pose souvent, au fil d'une journée, non ? Quelle heure est-il ? On veut savoir l'heure. Hein ? On veut savoir l'heure pour ne pas manquer son bus, peut-être. Ou pour être à un rendez-vous, ou pour aller à telle ou telle réunion, à temps, pour regarder telle émission de télé, un match de foot, je ne sais pas. Un rendez-vous galant. On veut savoir l'heure. Quelle heure est-il ? Important. Et Jean, ici, en commençant le texte de cet après-midi, il nous rappelle quelle heure il est à l'horloge de Dieu. Dieu a une horloge, vous savez ça ? L'histoire humaine s'achemine vers quelque part, vers un point précis. Le calendrier de Dieu, l'heure de Dieu, le timing de Dieu. Et ici, Jean dit qu'on est entré dans ce qu'il appelle, lui, la dernière heure. Et c'est quoi cette dernière heure ? Eh bien, c'est cette histoire, c'est cette période de l'histoire du salut qui va nous mener tout droit vers la consommation des âges. Ou ce qu'on appelle ailleurs dans la Bible le renouvellement de toutes choses, la fin de ce monde-ci comme on le connaît actuellement. La dernière heure. Quelle heure est-il au calendrier de Dieu, à l'horloge de Dieu ? Depuis que Jésus-Christ est mort et ressuscité, je ne sais pas si vous aimez les histoires de la Deuxième Guerre mondiale, il y a des fans de ça, ils se renseignent, ils veulent tout savoir. Hein ? C'est comme lors de la Deuxième Guerre mondiale, lorsque les Alliés sont débarqués en Normandie. À toute fin pratique, on connaissait déjà l'issue de la guerre. Les forces en présence étaient très déséquilibrées. On savait que les Alliés allaient gagner, mais il restait des poches de résistance qu'il fallait soumettre. Et les Allemands, eux, continuaient à combattre. Après le D-Day, il y a eu la bataille des Ardennes. Il y a eu encore beaucoup de morts, d'atrocités, d'exactions, mais c'était la dernière heure. Et c'est ce que Jean dit ici. Cette période dans laquelle on est, c'est la dernière étape avant la fin. Comme lors de la Deuxième Guerre mondiale. L'adversaire intensifie les attaques, même s'il sait qu'il a déjà perdu. La dernière heure. Et dans le contexte de cette dernière heure, le vieil apôtre Jean qui a écrit la lettre, qui a peut-être entre 80 et 90 ans, un homme déjà respectable en âge, il aborde avec ceux qu'il appelle ses petits-enfants, ses chrétiens de l'église d'Éphèse. On croit que Jean était le pasteur de l'église d'Éphèse à cette époque-là. Il aborde la question de l'Antéchrist. Il dit au verset 18 qu'il a déjà parlé de ce sujet-là avec eux. Ce n'est pas un sujet nouveau. Paul aussi avait parlé, 40 ans plus tôt, avec les chrétiens de Thessalonique, de cette question de l'Antéchrist. Jésus également avait parlé avec les 12, et même Daniel le prophète, dans l'Ancien Testament, en avait parlé. Mais chacun avait employé une terminologie ou un titre différent pour en parler. Par exemple, Paul dit que c'est l'homme du péché, ou l'abomination de la désolation, ça c'est Jésus, ou la petite corne, ça c'est Daniel. Mais tous parlaient d'une même réalité, l'Antichrist. Alors, ceux qui ont étudié un peu la théologie, vous savez que c'est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre, cet Antichrist. On en a parlé depuis 2000 ans, allez dans les bibliothèques chrétiennes, vous allez trouver toutes sortes d'écrits sur ce sujet. Mais de quoi s'agit-il, en fait ? Par antéchrist, on peut comprendre deux choses. La racine anti, ça veut dire contre. On parle de quelqu'un qui s'oppose au Christ, qui est contre le Christ. Mais anti, ça peut aussi vouloir dire celui qui prend la place de. Quelqu'un qui se substitue à. Alors, avant le retour de Jésus, il y a quelqu'un qui va venir. Il va vouloir prendre la place de Jésus et il va s'opposer férocement à Jésus, l'Antichrist. Et Jean en parle ici, dans le contexte de la dernière heure. Jean dit qu'avant d'assister à une opposition finale avec un antichrist A majuscule, il dit qu'il y aura cet antichrist A majuscule qui va récapituler toutes les oppositions possibles contre Jésus, mais avant cela, il doit y avoir plusieurs antichrists avec un A minuscule. Nous, quand on pense aux antichrists, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on pense peut-être aux grandes figures politiques, à de grands leaders qui se sont opposés à la foi, comme Hitler, Mussolini, Staline, ou on peut penser à toutes sortes de personnes. Mais ici, l'apôtre Jean dit que ces antichrists, ce sont des gens que les chrétiens de l'Église ont côtoyés. Voyez-vous cela ? C'est des gens que les personnes d'Éphèse connaissaient et ont même côtoyé. Ils ont chanté des cantiques avec eux pendant les cultes. Ils ont pris la Sainte Cène avec eux. On leur a fait la bise. Ils ont mangé des agapes avec ces gens-là. Et ces gens-là étaient associés aux apôtres. Ils sont sortis du milieu de nous. Waouh ! Comment est-ce que c'est possible, ça ? On comprend pour Jean l'urgence d'enseigner sur ce sujet. Plusieurs chrétiens de l'église d'Éphèse étaient troublés par cette question-là. Comment se fait-il que ces gens-là étaient parmi nous ? Ils ont fait tant d'activités chrétiennes avec nous. Et là, Jean les appelle des antéchrists. Ces gens-là qui avaient quitté l'église, c'était des amis des chrétiens de l'église d'Éphèse, des proches, et ils étaient partis. Ils avaient cheminé avec eux pendant des années, et là, ils avaient quitté. Dur. Quand un étranger s'oppose à nous, bien sûr, on est attristé. Mais l'impact n'est pas du tout le même que lorsqu'un proche de l'Assemblée se met à remettre en question les bases de la foi chrétienne. Vous voyez cela ? Si c'est quelqu'un que vous connaissez pas, il s'en va, d'accord ? Mais un proche, tu dis, j'ai parlé avec lui. On a échangé sur des thèmes profonds. Et voilà que là, tout est remis en question. C'était la situation dans l'église d'Éphèse. Et c'était ce genre de problème-là que Jean abordait avec les chrétiens qui étaient troublés, les chrétiens d'Éphèse. Ils sont sortis du milieu de vous. C'est pas que ces gens-là ont perdu la foi. C'est pas qu'ils sont plus chrétiens et ils l'étaient avant. Jean dit qu'ils ne l'ont jamais été. Ils n'étaient pas des nôtres. Ils étaient parmi les vrais chrétiens, mais eux n'étaient pas vraiment nés de nouveau. Ils n'étaient pas vraiment régénérés, transformés par le Saint-Esprit. Ils avaient l'apparence d'un croyant extérieurement, mais au-dedans d'eux, ils n'avaient jamais eu la transformation qui a lieu dans celui qui est vraiment sauvé, né de nouveau. Sortis du milieu d'eux, mais pas des leurs. Troublant, inquiétant. Et Jean parle ensuite de l'onction. Voilà encore un autre thème un peu difficile. Mais pour bien comprendre cette allusion à l'onction, il faut avoir en tête la manière d'opérer de ceux qui troublaient les chrétiens d'Éphèse. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient ces chrétiens dans l'église d'Éphèse pour troubler les vrais croyants ? C'est un peu comme s'il disait « Nous, on a une connaissance de Dieu que vous, vous n'avez pas. Hein? » Ils arrivent dans l'église, « Nous, on a quelque chose que vous n'avez pas, vous. » Il vous manque quelque chose, mes amis. Il faut absolument que nos initiés vous l'enseignent. Laissez-nous vous instruire. Vous avez déjà rencontré des personnes qui parlent comme ça ? « Nous, on sait quelque chose que aucun autre chrétien connaît. » On va vous instruire. On possède une connaissance cachée qu'on peut vous transmettre. Avec ça, vous allez vraiment être en communion avec Dieu. Imaginez ce discours dans une église. Imaginez. Imaginez votre réaction à vous si vous aviez été là. Là, vous grattez la tête et « Ah bon ? Est-ce possible qu'il nous manque quelque chose après tout ?» Hein? Est-ce que c'est possible ? Est-ce possible qu'eux, ils aient plus que ce que nous, on a déjà reçu par les enseignements de l'apôtre Jean et des apôtres? Est-ce que ça se peut que ceux qui nous ont évangélisés nous aient caché ce genre de connaissances supérieures, ésotériques? Et là, on avait des chrétiens troublés. Des chrétiens troublés. Jean écrit donc aux chrétiens d'Éphèse pour démêler tout cela. Il veut les rassurer, c'est ça son but. Cette lettre-là et ce chapitre-là n'est pas pour troubler encore plus les chrétiens. Il veut rassurer. Et remarquez le langage qu'il emploie. Le cher apôtre Jean, qui a 90 ans peut-être, un langage rempli de tendresse, d'affection. Et il appelle ces chrétiens-là mes petits-enfants. Je vous chéris comme si vous étiez mes enfants à moi. Petits-enfants. Et il leur dit, vous avez tous l'onction. Vous avez tous la connaissance. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Qu'est-ce que ça veut dire? On est ici, on enseigne, vous recevez l'enseignement à tous les cultes. Qu'est-ce que ça veut dire? Il veut dire que c'est pas nécessaire qu'on vous apprenne autre chose que vous avez, ce que vous avez appris au commencement. C'est ça qu'il veut dire. Il n'y a pas de connaissance cachée, supérieure, qui serait réservée à quelques initiés seulement. Pas besoin que des guides spirituels vous communiquent autre chose que l'Évangile. Voyez-vous, pourquoi? Parce que le jour où vous avez cru en Jésus, vous avez reçu l'onction. Vous l'avez l'onction. C'est le Saint-Esprit qui vit en vous. Et le Saint-Esprit, quand il entre dans le cœur d'une personne, il vient écrire la loi de Dieu dans son cœur. Vous avez l'onction. Le Saint-Esprit prend de ce qui est à Jésus et il nous l'annonce. Le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Le Saint-Esprit nous baptise, il nous convainc, il nous scelle, il nous régénère, il nous sanctifie. Il nous ouvre la compréhension des Saintes Écritures. Quand vous lisez la Bible, le Saint-Esprit éclaire. Vous avez reçu l'onction. Pas seulement le pasteur, pas seulement le missionnaire, l'évangéliste, ou quelques chrétiens ici et là. Vous tous, vous avez tous reçu l'onction. C'est exactement ce que l'apôtre Paul écrit aux Colossiens qui avaient affaire eux aussi à une forme de gnosticisme, comme les chrétiens d'Éphèse à qui Jean écrit. Paul dit aux Colossiens, vous avez tout pleinement en Christ. En lui se trouvent tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Il ne vous manque rien si vous avez le Christ. Et l'apôtre Pierre va dire exactement la même chose dans sa deuxième épître. Il va dire, vous avez tout reçu ce qui contribue à la vie et à la piété. Même chose. Et aux Corinthiens, Paul va dire la même chose en parlant de la grâce qu'on reçoit en Christ. Ta grâce me suffit. Même chose. Voyez-vous ? Avec Christ, on a tout. Avec l'Évangile, on a tout. Et en rappelant aux chrétiens d'Éphèse qu'ils ont tout ce qu'il leur faut, qu'il ne leur manque rien pour vivre la vie que Dieu leur donne, s'ils ont Jésus, Jean leur dit quoi exactement? Jean leur parle de la Trinité en eux. Il leur dit qu'ils ont le Fils éternel de Dieu en eux, le Messie, le Sauveur, celui qui est dès le commencement. Ils ont le Verbe fait chair, ils ont le chemin, la vérité, la vie, le bon berger, le pain de vie, la porte, la lumière en eux. Waouh ! Il leur dit que par le Fils, ils ont aussi le Père, le Créateur de l'univers, Yahweh, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu de l'Alliance, l'Éternel, le Grand Je Suis. Ils l'ont aussi. Il leur dit qu'ils ont l'Esprit, le Consolateur, celui qui sonde la pensée même de Dieu, celui qui régénère, celui qui conduit, qui révèle, celui qui fait sa demeure dans le cœur des croyants. Ils l'ont aussi. Waouh ! Tout en Christ. Qu'est-ce qu'il leur faut de plus ? Quand Jean dit à ces chrétiens qu'ils n'ont pas besoin qu'on les enseigne, il n'est pas en train de dire que le don d'enseignement dans l'Église, c'est inutile. On a Éphésiens 4 qui nous dit que Dieu a donné les uns comme apôtres, comme enseignants, comme évangélistes, etc. Il leur dit qu'ils n'ont pas besoin qu'on les enseigne comme ces gnostiques voulaient les enseigner. C'est ça qu'il leur dit. On n'a pas besoin de recevoir un enseignement comme eux voulaient vous donner. Pas besoin de leur apprendre à connaître Dieu au travers d'expériences mystiques. Rappelez-vous Jérémie chapitre 31, le grand passage qui annonce la nouvelle alliance. Le prophète Jérémie a dit « En ces jours-là, plus personne ne dira à son frère « Connais l'Éternel, car tous me connaîtront des plus petits jusqu'aux plus grands. » C'est le propre de la nouvelle alliance que pour ceux qui y entrent, ils connaissent Dieu personnellement. Dans la nouvelle alliance, tous les croyants connaissent Dieu intimement par la présence du Saint-Esprit. Bien sûr, on peut connaître plus. Bien sûr, on peut approfondir ça. Mais vous avez tous reçu l'onction. Vous avez tous la connaissance. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne un enseignement ésotérique, caché, mystique ou de ce genre-là. Alors Jean corrige ensuite une autre erreur de ces faux enseignants. Eux pensaient qu'on pouvait se passer du Fils tel que les apôtres l'auraient présenté ou le remplacer par un autre Christ. Hein ? Croire par exemple en un Fils qui n'est pas pleinement homme ou pas pleinement Dieu. Croire en un Fils divin mais qui a quitté Jésus à la crucifixion. Les gnostiques croyaient que Dieu était venu sur Jésus au moment du baptême et il avait quitté Jésus au moment de la crucifixion. Alors Jean leur dit non, non, non. Dieu, il est avec Jésus du début à la fin. C'est Dieu. Hein? Ou croire, par exemple, en un Fils imparfait qui aurait péché ou pas pleinement incarné. Donc il y avait toutes sortes de dérives par rapport à la personne de Jésus-Christ. C'est un peu comme certaines personnes qui vous diront aujourd'hui que le Fils n'est pas le seul Fils unique de Dieu. Ils vont dire par exemple que toi, tu peux devenir un Fils de Dieu. Les Mormons, par exemple, vont dire ça. On peut devenir un Fils comme Jésus. Ou alors que le Fils n'est pas Dieu, mais un petit Dieu. Témoin de Jéhovah. Voyez-vous ? Ou que le Messie n'est pas le Fils de Dieu parce que Dieu n'a pas de fils. Vous avez entendu ça ? Les musulmans, l'islam. Mais Jean dit non. Jean dit non. Pour avoir le Père, il faut avoir le Fils annoncé dès le commencement. C'est un package deal. Un package deal. On veut le Père, il faut le Fils. On veut le Fils, il faut le Père. Qu'est-ce que ce texte peut nous apprendre à nous, chrétiens de l'église de Saint-Maur, cet après-midi ? Je crois que ce texte nous apprend plusieurs choses importantes. Premièrement, qu'avec le Fils, on a tout ce que Dieu est, tout ce que Dieu a. Dieu n'a rien de plus à donner que ce qui se trouve en Jésus. Et je répète ça, c'est important. Dieu n'a rien de plus à donner que ce qui se trouve en Jésus. Deuxièmement, on apprend que c'est que d'être dans le Fils, c'est être dans la vérité. C'est être en communion avec le Père. C'est avoir l'onction de Dieu. C'est participer à la vie éternelle. C'est d'être des nôtres. C'est-à-dire de ceux qui appartiennent à Dieu, de son peuple, de son Église. L'importance du Fils. Troisièmement, le texte nous apprend qu'on n'a pas besoin de plus que l'Évangile, mais on a besoin de plus de l'Évangile. Je répète ça. On n'a pas besoin de plus que l'Évangile, mais on a besoin de plus de l'Évangile. Je pense que j'ai trompé là. Pas plus que l'Évangile, mais de l'Évangile. Alors, c'est un petit peu comme le gars qui est prospecteur. Alors, on lui a dit qu'il y avait de l'or quelque part. Après, il prend son détecteur de métaux et puis il trouve un filon là. Et puis là, qu'est-ce qu'il fait ? Il va chercher ailleurs, non ? Si tu as trouvé un filon d'or, eh bien tu restes là, et qu'est-ce que tu fais ? Tu vas profondément, tu creuses, tu creuses, tu creuses. Tu restes là. Si tu as trouvé, tu restes là, mais tu creuses. Notre problème, nous, c'est qu'on va en surface, et puis on pense qu'il faut aller chercher ailleurs. Et avant de trouver le filon, on n'a pas creusé assez profondément, on est vite tenté d'aller voir ailleurs. Pas plus que l'Évangile, mais plus de l'Évangile. Alors cet après-midi, je prie pour que le Fils, pour que sa parole annoncée dès le commencement, prenne des racines profondes en nous. Je prie qu'on soit rempli du Fils et qu'on réalise, qu'on se rende compte de ce qu'on est et de ce qu'on a en Jésus-Christ. Prendre conscience de ce qu'on est en Christ et de ce qu'on a en Christ. Qu'est-ce que Jean veut qu'on fasse à la fin de ce passage? Après l'avoir lu, l'avoir médité, on peut se poser la question pour chacun pour nous-mêmes. Alors je crois que l'intention de Jean, c'est de nous inviter à nous arrêter à examiner notre vie. L'amour qui vient de Dieu, l'amour de la croix qui se trouve en Christ, plus de l'Évangile en nous. Est-ce qu'on a pensé trouver quelque chose de mieux en dehors de Jésus? Est-ce qu'on a pensé qu'on passe à côté de quelque chose que quelqu'un nous aurait caché et qu'il faut découvrir en dehors de l'Évangile? L'apôtre Jean, cet après-midi, nous exhorte et nous dit « Restez attachés à l'Évangile. Rappelez-vous qu'on a tout pleinement en Jésus-Christ et apprenons à connaître mieux ce Jésus-Christ. On a tous reçu l'onction, on le connaît. Mais soyons plus intimes avec lui. Que Dieu bénisse sa parole. Je vais prier en terminant. Seigneur Jésus, merci. Merci parce qu'en Christ, nous avons toute la plénitude de la divinité. Tous les trésors de la sagesse et de la connaissance sont en Jésus-Christ. En Jésus, on a reçu tout ce qui contribue à la vie et à la piété par ta connaissance. Seigneur, aide-nous à mieux te connaître. Seigneur, permets qu'on soit attaché à ton Évangile. Aide-nous, dans les jours qui vont suivre, les semaines qui vont suivre, à approfondir notre connaissance de Jésus, approfondir nos racines dans l'Évangile, et que toi, tu sois glorifié dans nos vies et dans l'Église. Amen.